on se souvient que dans le schéma décrit sur le millénium, le retour de Jésus se situait avant l'éternité, ou avant le règne de fer et l'éternité, ou encore avant le millénium et l'éternité, et enfin avant la tribulation, le millénium et l'éternité. Il est donc nécessaire à ce point de notre examen de parler de ce retour sous ces différents angles et de prouver que le prémillénarisme le considère sous un aspect qui ne correspond pas à la réalité biblique. On prétend en effet que la paix ne peut régner sur terre durant l'époque où l'Antéchrist y règnera. Il est vrai que ce dernier ne pourra être détruit au retour de Jésus-Christ. Le millénarisme dit donc que Jésus doit revenir pour préalablement l'anéantir et ensuite établir son royaume afin de régner sur terre durant 1000 ans. La dernière partie de cette phrase est absolument fausse, et cette théorie tombe d'elle-même lorsque l'on considère que le mystère de l'iniquité faisait déjà son travail de sape au temps de Paul. Jean, de son côté, affirme que malgré la présence de l'Antéchrist dans le monde, les chrétiens se trouvaient néanmoins déjà sous la protection de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Par conséquent, personne ne peut affirmer que les chrétiens ne peuvent jouir de la paix tant que l'Antéchrist existe. Le millénarisme affirme dans une de ses thèses précitées que Christ reviendra aussitôt après la période de tribulation. Mais étant donné que cette tribulation doit se passer avant le règne de paix, le Fils de Dieu, cette dernière ne peut être que prémillénaire. Il suffit comme réponse à cela d'observer que les tribulations dont il est question en Matthieu chapitre 24 et 29 sont celles que les gens alors vivants subiraient lors de la destruction de Jérusalem. Et Jésus ne leur dit-il pas, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le contexte de ce passage se place dans un avenir proche et non dans un futur distant. Bien qu'on puisse démontrer que cette prophétie est double dans le but auquel elle tend, ce passage ne souffle mot de l'établissement d'un royaume millénaire devant suivre immédiatement cette tribulation. En fait, lorsque Jésus reviendra, ce sera dans le but de premièrement ressusciter tout le monde et non pas simplement les justes, deuxièmement de juger le monde, chrétiens et pécheurs, troisièmement de remettre le royaume déjà établi le jour de la Pentecôte, l'Église, à son Père. Non, il ne reviendra pas pour fonder l'Église. Jésus fut ressuscité pour s'asseoir sur le trône de David. Il est à la fois roi et souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il continuera de plus à régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, et alors seulement, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ces choses étant vraies, puisque dites par la Bible, la thèse selon laquelle la venue de Jésus-Christ ne peut avoir lieu qu'après une période de tribulation est caduque. La véritable Église, nous dit-on, est un peuple persécuté, souffrant, portant la croix. C'est là sa destinée, puisqu'il est écrit en 2 Timothée 3:12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il en doit être ainsi jusqu'à la venue du Seigneur. Une fois de plus, les prémillénaristes commettent une erreur, celle de penser que la paix du Seigneur ressemble à celle du monde. Mais Jésus dément cette idée en affirmant « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Cette paix attribuée par le Christ ne ressemble en rien à celle qui découle, dans une certaine mesure, de la richesse des traités de cessation d'hostilité entre nations. C'est une paix, une douceur d'existence dont on peut jouir les moments les plus troublés. L'apôtre Paul l'a définie ainsi. La paix de Dieu surpasse toute connaissance. Ceci fut écrit à l'Église, groupe de gens auxquels le millénium refuse toute paix avant le retour du Sauveur sur terre. Le contexte de ces versets bibliques montre bien que c'était l'Église persécutée qui jouissait pleinement de cette paix de Dieu que leur avait laissé Christ avant de retourner au ciel. Voici donc une théorie de plus qui s'écroule. Les partisans de cette fameuse doctrine du prémillénium soutiennent que l'ivraie et le bon grain doivent croître ensemble jusqu'à la fin de cette économie, que les méchants et les séducteurs iront en empirant. Il en sera ainsi à l'avenue du Fils de l'homme, comme il en était dans les jours de Noé et de Lot. Ceci aussi exclut absolument l'idée d'un règne de justice dans la dispensation actuelle. Cette théorie et ses résultantes veulent que Jésus revienne pour ressusciter les justes, pour vivre et régner sur terre, avec les chrétiens encore vivants durant une période littérale de 1000 ans. Les autres morts, l'Apocalypse chapitre 20, verset 5, auxquels les millénaristes donnent la qualification de mort injuste, ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. L'ensemble de l'argumentation est basé sur une fausse interprétation du terme des autres morts. En fait, ces autres morts comprennent l'ensemble des décédés, les chrétiens et les pécheurs qui n'ont pas été martyrisés en étant décapités pour la cause de Christ. Le contexte est là, mais on en fait fi et sans vergogne. La parabole de l'ivraie et du bon grain n'apporte pas un décilitre d'eau au moulin du millénarisme. Bien au contraire, elle prouve tout simplement que tous doivent vivre ensemble jusqu'à la fin et non pas jusqu'au millénium. À ce moment-là, l'ivraie sera jetée dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il s'agit là, selon toute évidence, de la fin des temps, lorsque les injustes seront punis et les justes récompensés. Y voir le début d'un millénium serait tout simplement attribué à la parabole un sens que Jésus n'a jamais voulu lui donner. Autre théorie millénaire. Le règne de 1000 ans sera un règne réel de Christ sur la terre et non une exaltation spirituelle de l'Église. Et les raisons en seraient que la Bible dit qu'un roi règnera selon la justice, en Ésaïe, qu'il règnera sur le trône de David, Ésaïe chapitre 9, et à Jérusalem, Jérémie chapitre 3, verset 17. Ensuite, que les apôtres siégeront sur 12 trônes et que les saints régneront sur terre. Apocalypse chapitre 5 et verset 10. En réponse à ce qui précède, on ne peut dire qu'une chose, c'est que Jésus règne déjà et qu'il continuera à le faire jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il règne sur le trône de David, qui est le trône de Dieu, se trouvant au ciel. Le Christ règne également sur Jérusalem, mais pas la Jérusalem de Judée, puisqu'il descend de Iconias. Il ne pourrait prospérer en étant sur le trône de Judée et souverain de cette contrée. La Jérusalem dont il est question à propos du Fils de Dieu est céleste. C'est notre mère, ajoute même Galates, chapitre 4 et verset 26. Il s'agit ici aussi de la période de régénération, durant laquelle les apôtres occupent une place lors du jugement et les chrétiens règnent sur le monde. Ceci relève, bien entendu, du langage figuratif et non littéral, comme on aimerait nous le faire croire. Cette théorie millénariste va même à l'encontre de sa propre position. L'auteur de Jésus revient croit que l'ordre de déroulement de la résurrection prouve le bien fondé de la doctrine du primillénaire. Nous croyons, dit-il, avoir ici un argument concluant. Tous les morts ressusciteront, mais de même que Jésus se releva seul d'entre les morts, le reste des morts étant laissés dans les sépultures, ainsi que les morts en Christ, ceux qui lui appartiennent à sa venue, se releveront seuls d'entre les morts, les autres étant laissés jusqu'à la résurrection finale. Le règne de paix aura lieu entre ces deux résurrections, ce qui montre clairement que la venue de Christ précédera ce règne. Monsieur Blackstone fait ensuite ressortir le fait que Christ sera les prémices, puis ceux qui sont morts en Christ ressusciteront à son avènement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et à ce moment-là, commenceront à régner avec Christ durant 1000 ans. Cependant, les autres morts d'Apocalypse 25 ne viendront pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. Et pour Blackstone, les autres morts sont les injustes. Et c'est précisément là que le bât blesse, car les autres morts sont non seulement les injustes, mais tous les morts, à la fois saints et pécheurs, exception faite de ceux qui ont été décapités pour la cause de Christ. De plus, le fait que les morts en Christ ressusciteront en premier ne signifie nullement avant que les pécheurs ne le soient. Ça veut dire qu'ils ressusciteront avant que quoi que ce soit ne se passe à propos des chrétiens encore vivants sur terre, lorsque Jésus viendra à notre rencontre. Cette théorie constitue donc une distorsion très subtile des Écritures pour amener ceux qui y adhèrent à la destruction. Il nous est encore dit qu'il est absolument incompatible avec la constitution de l'esprit humain de se se tenir un éveil pour un événement dont il croirait que 1000 ans et plus le séparent. Ce raisonnement pêche par son manque total de réalisme. Car sinon, que serait l'espérance du chrétien? Au contraire, Paul écrit aux Thessaloniciens, « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et dans sa deuxième épître, il leur dit encore, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Il les informe donc que le retour de Jésus-Christ ne se situe pas dans un avenir tout proche, et que c'est pour cela qu'ils doivent veiller sur leurs âmes. Cette prétendue période d'attente réclamant un retour immédiat de notre Seigneur est donc parfaitement illusoire. Le fait que Jésus va revenir est clairement exprimé dans la Bible. En Hébreux 9, 6, par exemple, elle nous dit « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Par contre, rien ne nous permet d'en situer l'époque, l'année ou le siècle. Jésus nous fait prendre conscience de notre ignorance à ce sujet. Pour ce qui est du jour et de l'heure, dit-il, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il semble pourtant que les partisans du millénium aient la science innée quant au moment du retour du Seigneur. Les affirmations, les supputations se succèdent et se transforment en certitudes. Ils savent, eux. Certaines paroles de l'apôtre Paul planent cependant au-dessus d'eux. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront